Veuillez prendre place. Content de vous voir. Moi, je m'appelle Paul, je suis le pasteur francophone à votre service. Nous allons écouter maintenant la parole de Dieu. On continue notre série, on termine en fait notre série aujourd'hui en Romains qui nous a pris du chapitre 1 jusqu'au chapitre 8. Et donc, je vous invite à avoir la Bible avec vous. Et je vais juste prier avant d'aller plus loin. Prions. Père Céleste, tu nous as dit beaucoup de choses pendant ces dernières semaines. Nous avons été avertis, interpellés, mis au défi, soulagés, rassurés, encouragés, joyeux, apaisés, parce que cet évangile est un grand message de notre salut. Merci pour tout ce que nous avons pu entendre. Et aujourd'hui, Seigneur, assure-nous de ton amour, de ta justice, pour que nous puissions être des solides chrétiens, qui ne sont pas vite ébranlés, mais qui sont assurés de la relation que nous avons avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Ce jour-là, c'était un jour ordinaire au bureau pastoral et une jeune femme a toqué à la porte du bureau pastoral. Et j'ai commencé la conversation comme d'habitude en disant « Bonjour, comment ça va ?» Et puis on a une phrase. Elle n'a presque pas pu répondre, mais elle m'a expliqué ce qui s'était passé. Elle était fiancée et à quelques semaines du mariage, son fiancé a annulé le mariage. Son monde venait de s'effondrer. Tout semblait dessiné. Tout se préparait pour ce mariage, la date était fixée, mais tout s'est arrêté net comme ça. Alors ce n'est pas que la décision elle-même était mauvaise. Le temps des fiançailles est justement ce temps où on essaye d'évaluer si le mariage est une bonne idée ou pas. Et c'est un moment de liberté aussi. Les fiançailles ne sont pas le même engagement que le mariage. Mais ça montre combien nous pouvons ressentir subitement un manque de sécurité. Quand nous pensons que nous sommes en sécurité dans une relation ou dans un travail ou dans une étape de la vie, tout peut très vite basculer. Que ce soit l'insécurité relationnelle, ou peut-être professionnelle, ou financière. Là où on pense que ça va bien, tout est sur les rails, on sait où on va, on sait que ça va aller, très vite on peut commencer à douter et à se remettre en question, parce que tout semble s'effondrer. Nous entendons aujourd'hui la vérité de la Bible, que nous sommes justifiés et aimés. Ce sont les grandes promesses de Dieu. Donc j'ai intitulé ce message « Justifiés et aimés ». On l'a déjà entendu dans ces quelques semaines, dans ce livre de Romains. Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous vous souvenez de ça? Romains 5, verset 8. Nous avons parlé dans toute cette série du juste et des injustes. Dieu qui est juste, parfaitement juste, dans sa sainteté, dans sa loi, dans ce qu'il veut pour nous. Et nous qui, malheureusement, nous avons tous péché. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais, malgré que Dieu était parfaitement juste et que nous étions complètement et tous injustes, il a envoyé son Fils, Jésus, pour que lui, le juste, il meure pour les injustes, pour que nous puissions être justifiés, justes devant Dieu. Nous sommes aimés et nous sommes justifiés. Maintenant, j'espère que vous avez saisi cela parce que ça fait plusieurs semaines qu'on le dit. Et chapitre 8 commençait avec cette déclaration. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais dans cette phrase, qui est une promesse remarquable, il y a un petit mot qui pourrait nous déranger. C'est le mot « maintenant ». Il n'y a maintenant aucune condamnation. D'accord, maintenant, ça va. Maintenant, je suis en sécurité avec Dieu. Maintenant, je ne suis pas condamné. mais après, demain, ou dans quelques mois, ou l'année prochaine, ou dans 10 ans. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis en sécurité maintenant et pour toujours, ou je suis en sécurité pour le moment? Ma sécurité pourrait s'évaporer? Alors, je sais que ça va du bien entre Dieu et moi, je sais que je suis justifié. Mais est-ce que ça pourrait mal tourner? Est-ce qu'il pourrait y avoir un problème, quelque part, plus tard? Et qu'est-ce qui se passe si un jour je manque de foi? Ou je doute? Ou je commets une faute? Est-ce que quelque chose pourrait m'arriver? Quelque chose de plus puissant pourrait s'attaquer à moi et à ma foi? Et finalement me détruire, me nuire? Je connais des gens qui sont plus grands que moi, qui sont tombés, qui avaient plus d'expérience chrétienne, plus de vie chrétienne que moi. Même si je pense à mon passé, si nous pensons à notre passé, des choses de notre passé peuvent revenir, n'est-ce pas, et nous rendre insécurisés. Et donc on est plus sûr que ça va aller. Notre avenir est-il sûr, ou est-ce que c'est avec hésitation que nous espérons en Dieu ? Nous espérons qu'il va nous déclarer juste, qu'il va nous glorifier. Il avait dit, juste avant que, chapitre 8, verset 28, verset 30, que ceux qui les a justifiés, il leur a aussi accordé la gloire. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose qui se passe ? Entre le moment où nous sommes justifiés et le moment où nous entrons dans la gloire, quelque chose qui fait dérailler le projet de Dieu ? Et c'est à cette question-là que nous allons maintenant nous adresser, parce que Paul en parle directement après. Romains chapitre 8, verset 31. Et j'espère que vous l'avez sous les yeux. Que dirons-nous donc de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ? De fait qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Personne ne peut nous condamner. On va commencer par ça. Personne ne peut nous condamner. Si Dieu est pour nous, lui qui est notre juge, le juge qui a le verdict final, personne ne peut nous opposer avec succès. C'est pour ça qu'il dit « qui pourra être contre nous ?» Bien sûr, il y aura des gens contre nous, mais ils ne sont pas aussi grands que Dieu. Et lui s'est déjà prononcé pour nous, en notre faveur. Alors en Belgique, j'ai découvert que beaucoup de gens ont un procès. J'ai eu ça aussi à un moment avec un conducteur qui m'était rentré dedans. Des procès qui se passent entre voisins, ou au tribunal du travail, ou avec le propriétaire, ou un litige envers un hôpital. J'ai connu quelqu'un qui, pendant longtemps, essayait d'entrer en litige contre un médecin, ou peut-être avec un particulier, tout simplement. Et tout ça peut prendre longtemps. Quand on est au procès, c'est une longue procédure et on ne sait pas quelle va être l'issue de ce procès. Ça peut être pour nous, notre faveur, ça peut être contre nous. Mais Dieu a déjà donné son verdict. Par rapport à la justice, par rapport à la vie chrétienne que nous sommes censés avoir, il a déjà dit « nous sommes déclarés justes ». Et il a donné les moyens, il a donné son Fils. Verset 32, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui ? Il y a quelques semaines, on avait évoqué l'idée que quelqu'un nous donne une belle voiture. C'est ce beau et généreux cadeau que quelqu'un pourrait nous faire. ça ne se passe pas dans la vie vraiment courante, mais imaginez que quelqu'un te donne une voiture. Est-ce qu'il ne va pas te donner les clés de cette voiture en disant « Ah, ça, je ne peux pas, je ne peux pas payer. Je vais payer toute la voiture, mais je ne peux pas payer pour les clés. » Ou l'essence, c'est un peu cher ces jours-ci, l'essence. Donc, il n'y a pas d'essence dedans. Mais non, s'il t'a donné le plus grand cadeau de tous, alors il pourra donner les petites choses qu'il nous faut. Et donc, si nous pensons à l'aide, ou à la fidélité, ou à la protection, bien sûr, Dieu peut pourvoir cela. Parce qu'il nous a déjà donné le plus grand cadeau de tous, qui est son propre Fils. Et donc, cher chrétien, ne t'inquiète pas. Dieu pourvoira tout ce qu'il faut pour ton salut. Que ce soit ta persévérance, ta fidélité, des efforts que tu as à fournir, Dieu va t'aider à faire ça. Dieu va te garder. Il a déjà donné son Fils pour toi. Et c'était le plus précieux qu'il pourrait t'offrir. Et puis verset 33, qui accusera ceux que Dieu a choisis ? C'est Dieu qui les a déclarés justes. Qui les condamnera ? Ici, ça me fait réfléchir à la cour d'appel. Vous connaissez ça, n'est-ce pas, dans les infos, dans la société. La cour d'appel, c'est quand on revoit un petit peu un verdict qui a été donné. Comment est-ce qu'on se sent par rapport à ça ? Parfois, ça peut être une mauvaise chose, parce que quelqu'un qui a été accusé et condamné, il passe par la cour d'appel et puis il est relâché. Mais je pense à une situation récente. Un homme a été emprisonné pendant 17 ans, mais il était innocent en fait. Il avait été faussement emprisonné. Et quelqu'un d'autre qui n'avait pas été condamné était en liberté dans la société. Il était en train de vivre comme s'il était innocent. Mais de nouvelles preuves ont été trouvées, preuves ADN, qui en fait condamnaient celui qui vivait comme s'il était innocent, et ont ainsi justifié et libéré l'autre homme qui avait été condamné à tort. Alors c'est là, je crois, notre crainte. Que se passe-t-il si le diable, comme un procureur qui nous accuse devant Dieu, revient à la charge? Comme s'il disait « Ah, en fait, il y a de nouvelles preuves. On a vu des preuves ici de l'indignité de ce chrétien. Vous avez vu ce qu'il a fait? Il est tellement indigne. Tu ne savais pas ça avant. » Mais maintenant, il y a de nouvelles preuves qui font qu'il faudrait refaire le procès et trouver que cet homme qui a été déclaré innocent, en fait, il soit jugé coupable. Il faudrait le condamner. Qui pourrait accuser et condamner ? Ben, on sait que le diable prend plaisir à accuser les chrétiens. Les chrétiens ne sont pas dignes d'être sauvés. Parfois, on sent notre indignité à nouveau. On se dit, ah, ça allait bien. Mais là, j'ai mal agi et je me sens mal. Est-ce qu'on risque d'être condamné par un deuxième jugement ? Non. Parce que Dieu, qui a déclaré juste, c'est la Cour suprême, c'est sa propre décision. Et donc ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend de l'œuvre de Christ. Et donc quand d'autres voudraient te condamner et t'accuser, que ce soit le diable, que ce soit le monde, notre entourage, que ce soit même nos proches qui nous jugent, nous devons apprendre à nous répéter l'évangile. Et c'est pourquoi il le dit au verset 34. Regardez le verset 34. Quelque chose que nous devons répéter intérieurement si notre monologue intérieur nous condamne ou nous juge, nous accuse. Qu'est-ce qu'il dit ? Christ est mort. Il a payé mes fautes. Il a payé pour toutes mes fautes. Il est ressuscité, son œuvre est finie pour ma justification. Et mon avocat est vivant parce qu'il est ressuscité. Quoi d'autre ? Il est à la droite de Dieu. Il n'y a pas de place plus élevée que la place de Christ. Il n'y a pas d'autorité plus compétente que la sienne. Il n'y a personne au-dessus de lui qui pourrait le contredire. Et il intercède pour nous. Il plaide en notre faveur. Il y a un chant que nous chantons et que nous allons chanter à la fin de notre réunion aujourd'hui, devant le trône du Très-Haut. Et en fait, l'écrivain de ce chant réfléchit à ces vérités-là. Et il dit ceci, « Puisqu'il défend ma cause au ciel, nul ne pourra me condamner. » C'est quelque chose que nous pouvons chanter avec assurance. Et peut-être justement, ce chant peut nous aider à nous souvenir de ces vérités qui sont si précieuses, des promesses. Personne ne pourra nous condamner. Parfois, on ouvre une enveloppe et puis on se rend compte qu'elle ne nous était pas adressée. On l'a ouvert en pensant que c'était pour nous et puis on se dit, ah non, en fait, c'est pour quelqu'un d'autre. Et donc, juste avant de voir la deuxième partie, je pense qu'il faut considérer pour qui est-ce que c'est cette enveloppe, cette assurance qu'il n'y a pas de condamnation. C'est pour qui? Qui sont ceux que Dieu a élus? Eh bien, au verset 28, si on remonte au verset 28, ils sont décrits comme ceux qui aiment Dieu. C'est le signe que nous sommes à lui. Est-ce que vous aimez Dieu? Et au verset 39, il parle de l'amour en Jésus-Christ, notre Seigneur. J'aimerais juste que vous reteniez ces deux idées. On aime Dieu. Et Jésus est notre Seigneur. Vous voyez, c'est possible de croire en Dieu sans vraiment l'aimer. Oui, je crois, je ne suis pas athée, je ne suis pas bouddhiste, oui, je crois en Dieu. Est-ce que vous aimez Dieu? Est-ce que vous avez de l'amour pour lui dans votre cœur? D'autres ont entendu parler de Jésus et disent, ah oui, Jésus, c'est quelqu'un de bien. Mais Jésus n'est pas devenu leur Seigneur. Seigneur veut dire chef. Maître de notre vie. Est-ce que nous faisons sa volonté? Qu'en est-il pour nous? Si nous venons à l'Église, mais que Jésus demeure un peu théorique pour nous, ou que nous voyons qui il est, mais nous n'avons pas vraiment envie de nous soumettre à lui, il n'y a pas de sécurité. Cette enveloppe n'est pas pour vous pour le moment. Vous n'avez pas de sécurité en dehors de Christ, même si vous venez à l'Église. Ce n'est pas en étant à l'Église que vous recevrez la sécurité, c'est en étant en Christ. C'est en étant en lui. Ça veut dire que nous vivons par la foi en lui, mais aussi que j'ai tout mis, toute ma vie, entre ses mains. Et si c'est le cas pour toi, alors sache que tu ne dois pas avoir peur. Rien ne pourra intervenir entre le moment où tu as été justifié par ta foi en Christ et le moment où nous recevrons la gloire, verset 30. Rien ne pourra intervenir entre ces moments. Et nous ne devons pas penser que nous sommes impardonnables ou que le pardon va manquer quelque part en disant « Je t'ai pardonné quelques fois, je t'ai déjà assez pardonné. » Non, le verdict est déjà fixé pour nous. C'est très rassurant. On sait qu'à la fin, on sera accepté par Dieu parce que nous sommes justes et personne ne peut nous condamner. La fin du chapitre abonde dans ce sens, mais avec une nuance un peu différente. On a parlé tout d'abord en termes juridiques. Paul exprime des choses comme la punition, la justification. Est-ce qu'on est coupable? Est-ce qu'on est innocent? Ce sont des termes juridiques d'une cour. Ça va, c'est légal. Mais dans la dernière partie, il change et il parle en termes relationnels. C'est-à-dire, il va mettre en plus en avant la relation que nous avons avec le Seigneur Dieu, qui est l'amour de Dieu. Nous sommes aimés. Et dans ces derniers versets, nous voyons que personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit a suggéré ces pensées, ces mots même à l'écrivain, à Paul. Car il savait que nos sources de difficultés sont nombreuses. Quand il pose la question, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Il va en fait énumérer différentes réponses qui sont potentielles. Regardez le verset 35. La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée. Les problèmes. La persécution, par exemple, ou les manquements, on manque de nourriture, on manque de vêtements. Est-ce que finalement, nos manquements finissent par nous séparer de Dieu? Ou le danger, le risque de subir une perte. Et quand il mentionne l'épée, c'est une bonne image, parce que l'épée, c'est peut-être celle d'un brigand qui va nous attaquer pendant nos voyages. Ou c'est peut-être d'une armée. Lorsque nous sommes en guerre, ou la punition de l'État. Des gens étaient mis à mort par l'épée à Rome. certains chrétiens étaient mis à mort, et ça se passe encore aujourd'hui. On pense à ces vidéos, n'est-ce pas, il n'y a pas si longtemps, d'hommes qui allaient être décapités pour leur foi en Christ. Est-ce que ça pourrait nous séparer de l'amour de Dieu? Et ce n'est pas comme si on va être épargné de mourir. Regardez le verset 36, il dit en fait, « À cause de toi, à cause de Dieu, à cause de notre foi en Christ, on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. » Des chrétiens, comme Paul lui-même, l'écrivain, ou Étienne, ou l'apôtre Pierre, sont morts pour leur foi chrétienne. L'épée pourrait nous atteindre. John Stott, dans son commentaire sur cette section, dit ceci, « L'insécurité est écrite dans toute l'expérience humaine. Les chrétiens n'ont pas la garantie d'être immunisés contre la tentation, la tribulation ou la tragédie, mais on nous promet la victoire sur elle. La promesse de Dieu n'est pas que la souffrance ne nous affligera jamais, mais qu'elle nous séparera jamais de son amour. » Fin de citation. En fait, Paul va aller même plus loin, il va dire, on est plus que vainqueur. C'est-à-dire qu'on va surmonter l'épreuve. Ces choses-là vont venir vers nous et nous allons vaincre et même survaincre, surmonter tout ça. Pas parce que nous sommes forts, mais parce que Dieu nous a aimés. Dans la vie, beaucoup de choses changent. Avez-vous remarqué, même sur une semaine ordinaire, combien nos émotions changent ? On dit parfois que les femmes sont plus émotionnelles, mais moi je remarque ça en tant qu'homme. Ça va ? On se lève le matin, oh, lundi, on se sent vraiment bas. Et puis on va au travail et on prend un café, et ouais, on est boosté, on est prêt, on y va, on est go. Et puis peut-être un collègue nous fait une remarque, et on dit, oh non, mon état d'esprit coule. Et mes sentiments vacillent, genre, je suis un peu au creux de la vague. Et puis après, quelque chose de bien se passe, je reçois une bonne nouvelle, oh, ça va bien. On appelle ça un ascenseur émotionnel en français, parce que ça monte et ça descend, comme l'ascenseur ici. Sur une journée. Donc si on va juste se baser sur comment je me sens, ben, à un moment je vais dire oui, ça va bien, à un autre moment je vais dire non, ça va pas. Mais des choses assez profondes peuvent arriver. Et beaucoup de choses changent, et Paul va les passer en revue au verset 38 à 39. Et en les regardant, j'aimerais que vous pensiez, en lisant ces versets, comment ces choses qu'il mentionne nous coupent habituellement des personnes que nous aimons, les autres personnes de notre vie, nos amis, membres de notre famille, etc. On ne va pas encore parler de Dieu, mais juste de voir que oui, ça peut vraiment nous arriver. Tout d'abord, au verset 38, il parle de la mort ou la vie. Bien sûr, la mort nous sépare de ceux qui nous aimons, mais aussi la vie. Nos amis déménagent ou vont à une autre école et on ne les voit plus si souvent qu'avant. On dit, ben, c'est la vie. Ah, on était dans le même quartier, on vivait dans la même rue, et puis avec le temps, ben, voilà, la vie nous a un peu séparés. Les anges et les dominations, les anges ont parfois éloigné les hommes, prévenu les hommes qu'ils devaient quitter et aller autre part. Je pense à Lot et sa famille, par exemple, ils ont éloigné de son entourage, de sa ville. Les puissances du mal ont parfois aussi tellement eu d'emprise sur quelqu'un qui se trouve coupé de son entourage. Pensez à Légion qui vivait tout seul, loin de ses proches. Les anges et les dominations. Le présent et l'avenir, n'importe quel jour, aujourd'hui, tout pourrait changer. L'avenir, ben, c'est encore plus inconnu que le présent, n'est-ce pas ? Et ça nous fait peur. On pourrait être séparés des uns des autres par le temps qui passe. Ça peut arriver. Jordan, il est ici aujourd'hui, la semaine prochaine, il est en Amérique. Mais ce n'est pas inévitable. Parfois, un couple au bord de la rupture dit ceci. Elle n'est plus celle que j'ai épousée. Comme si ça annulait tout le mariage. Qu'est-ce qu'on est en train de dire là ? C'est que, ben, avant, elle était comme ceci, elle était sympa, elle était gentille. Maintenant, c'est plus comme avant. Mais ça veut dire que même la notion du mariage, c'est que quand on s'est marié, j'étais juste en train de dire que je l'aimais à l'époque. Mais le mariage, c'est pas « je t'aime pour le moment », et puis on va voir. Le mariage, c'est « je vais t'aimer, Dans les bons jours et les mauvais jours, je vais t'aimer à travers les années, parce qu'une femme de 75 ans, ce n'est pas la même femme qu'une femme de 25 ans. Forcément, il y aura du changement. Mais un effort dans le mariage qui va au-delà de « je t'aime pour le moment » à « je vais t'aimer toujours ». On ne peut pas dire « maintenant il est au chômage » ou « maintenant il est gros » ou « elle est vieille » ou « elle est moins active » et donc on n'est plus les mêmes. Ça annule le mariage, mais non. Mais ces choses séparent parfois les gens, le présent et l'avenir, le passage du temps, ça sépare aussi les amis. Et puis il mentionne les puissances. Paul avait dit, par exemple, quand il écrivait aux Thessaloniciens, « Nous allons voulu aller vers vous à une ou deux reprises, mais Satan nous a empêchés. » On ne sait pas comment. Peut-être que la frontière était fermée, peut-être qu'il n'y avait pas de bateau pour aller faire le voyage, on ne sait pas exactement comment, mais il a été empêché. Parfois, les empêchements les plus pratiques ont une source spirituelle, et on se dit, mais il y a quelque chose derrière. Et puis la hauteur et la profondeur. Des choses qui nous font peur, la hauteur, mais aussi des choses qui nous éloignent. Parce que quand quelqu'un va habiter au nord, en Finlande, ben, on ne va plus le voir, ou en Afrique du Sud. On ne va plus se voir tellement souvent. Ou quelque chose de la création. Verset 38. Il traverse l'océan. Et maintenant, Jordan sera en Amérique et il y aura un océan qui nous sépare. On ne le voit plus. Tout cela peut mettre nos relations humaines à rude épreuve. C'est sûr. Ça peut nous éloigner, ça peut nous couper les uns des autres. Mais avec Jésus, là, l'amour de Dieu surmonte ces barrières. Rien n'est plus grand que Dieu. Rien ne surpasse Dieu. Et donc, toute notre vie, nous serons aimés par Dieu. Et ensuite, il nous prendra dans sa gloire. Rien n'est suffisamment puissant pour nous éloigner de lui. Une autre façon de voir ça, au verset 37, c'est celui qui nous a aimés. Voyez-vous, il nous a aimés et son amour, est basé sur un choix. Dieu a décidé de nous aimer. Et Dieu ne change pas. Donc s'il a décidé de t'aimer, il va t'aimer. Et son amour ne dépend pas des circonstances qui changent. Il ne dépend pas même de nous et comment nous changeons. C'est son choix, il a décidé de t'aimer. Et parce qu'il nous a aimés, nous savons que nous serons sauvés. Alors ça peut sembler orgueilleux de quelqu'un dise ben, nous avons la vie éternelle. Mais au contraire, ce n'est pas orgueilleux en pensant à nous-mêmes et combien nous sommes bons. C'est une confiance en lui, en celui qui nous aime, que par sa grâce, il nous prendra dans sa gloire. Ce n'est pas parce que nous le méritons, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, ce n'est pas parce que nous sommes bons. Et ce même Dieu, il pourvoit à travers toutes circonstances. Soyons clairs, quand Paul énumère ces choses, c'est des choses qui peuvent nous arriver. Nous pourrions perdre des amis. Il y a des gens qui nous diront qu'ils ne nous aiment plus. Certains ont eu l'expérience de vivre une rupture. Dans un couple, c'est très pénible. Mais Dieu ne changera pas d'avis sur nous. Le Seigneur nous aime et il nous aimera à travers toutes les circonstances. Il nous aime aujourd'hui, au présent, il nous aimera à l'avenir. Et c'est là une source de consolation, une source de certitude, une source de sécurité que nous pouvons ressentir. Alors dans la suite de la lettre aux Romains, parce que ce n'est pas la fin de Romains, dans la deuxième moitié du livre, il va relater comment nous pouvons vivre en fonction de l'amour de Dieu. Nous aimer les uns les autres. Il y a beaucoup de choses pratiques et on ne va pas avoir le temps de prêcher cela parce que la semaine prochaine, on sera dans une autre série. Mais je vous encourage à lire la suite de Romains et de réfléchir à ce que Dieu veut changer dans votre vie. Mais, après avoir compris ce que nous avons vu aujourd'hui, remarquons à quel point notre salut est sûr. Dieu nous a déclaré justes, nous sommes justifiés. Et il ne va pas changer son verdict sur nous. Dieu nous a aimés. Il a décidé de mettre son affection, de fixer son affection chez nous. Et il ne va pas changer d'affection ou de sentiment. Parce que Dieu ne change pas. Il est pour nous et il nous aime. Prions. Oui, notre Dieu, ces choses sont simples, elles ne sont pas si compliquées à comprendre, mais elles sont vraies. Et donc, ça nous réjouit de savoir que tu nous aimes d'un amour intarissable et que tu es juste et ta justice est pleinement satisfaite en Jésus-Christ. Alors, aide-nous, Seigneur, quand les choses changent, quand les choses vacillent, quand nous avons des pertes, quand nous avons des souffrances, quand nous avons des doutes, à nous rappeler cet évangile que nous avons vu en Romains. Et à pouvoir être fortifié par ces vérités, ces promesses de ta part. Merci parce que tu ne changes pas. Tu ne veux pas nous laisser tomber. Et ton Fils est pour nous. Et toi-même, notre Père, tu es pour nous également. Te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons faire une chose un peu inhabituelle.